En quelques mots, il est pasteur et il vient de l'église Momentum à Bordeaux. Qui connaît cette église? Ah ben voilà. Elle a vraiment un impact et on aime cette église et on se réjouit vraiment de l'avoir avec nous ce matin. Il voyage, il transmet son cœur. Il a aussi écrit un livre, mais je vais peut-être pas en dire plus. Je laisse un peu de suspense, je pense qu'il en parlera aussi de lui-même. Mais c'est vraiment une belle personne et qu'on puisse vraiment ouvrir nos cœurs aussi à ce que Dieu va dire au travers de lui ce matin. Bienvenue Ben.
Bonjour Église Passion, comment ça va? Ça va mieux à gauche qu'à droite apparemment, je ne sais pas. Peut-être que la sono elle est moins branchée à droite, je ne sais pas. C'était bien ce moment de louange, on était bien non? Moi j'avais presque pas envie de monter, non pas que j'avais pas envie de vous parler, vous allez vite voir que je parle beaucoup. Mais c'était un beau moment de louange au pied de notre Seigneur, au pied de notre Roi des Rois. Celui qui va faire la différence et qui fait déjà la différence ce matin. C'est le nom que nous proclamons, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Et j'ai vraiment aimé l'atmosphère de louange, de passion qu'il y avait dans cette salle. Et Dieu m'a mis à... Alors je commence avec peut-être une pensée même pour l'Église. C'est assez rare parce que je veux pas... D'habitude, je me présente, je vais me présenter quand même, rassurez-vous rapidement. Mais je sentais vraiment, et je voyais ce mot passion, des gens passionnés et nés de la passion. Passionnés, nés de la passion. Et c'est comme si Dieu me montrait, comme des enfants qui viendront naître de la passion. En fait, c'est comme si vous étiez un peu une pépinière à venir, des gens qui vont naître de la passion, et comme s'il fallait se préparer à accueillir des enfants qui vont naître de la passion. Et c'est beau, je pense que c'est une belle vocation pour l'Église que d'enfanter quand même, c'est pas mal. Et je crois vraiment que cette Église va enfanter des gens passionnés, nés de la passion. Et je trouvais que j'ai compris vite quand Dieu m'a dit passionné, j'ai vite compris le sens que ça pouvait prendre là-dedans. Alors, est-ce que je peux prier pour vous? Est-ce que je peux prier pour vous en tant qu'Église? Imaginez, les gens me disent non, ce serait improbable, mais je demande quand même la permission. Seigneur mon Dieu, merci pour cette matinée. On est dans la joie de pouvoir vivre ce culte ensemble, Seigneur mon Dieu. Et moi, je te prie pour cette Église. Une église qui n'a pas un nom au hasard, je crois vraiment que c'est une vision que toi tu communiques pour une partie de la famille de l'église, l'église Passion. Et je te prie pour ce que tu m'as mis à cœur de leur transmettre ce matin, cette notion que des enfants vont naître de cette passion qui sera communicante dans ce lieu. Des gens de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, des gens en dehors de la famille qui ne connaissent pas le Seigneur, mais des gens qui vont venir et qui vont être gagnés par la passion. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que cette Église également se prépare à accueillir toutes ces nouveaux-nés, à les accompagner, parce que c'est aussi un défi. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, et que c'est le cœur de toute l'équipe, ici, de toute la famille, que la famille s'agrandisse justement, Seigneur mon Dieu. Alors on te remercie d'avance et on t'applaudit d'avance pour ce que tu vas faire. Merci Seigneur. Je suis venu également vous présenter mon troisième enfant. Moi aussi, je parle de nouveau-né ce matin. Alors, ma femme, elle n'aime pas quand je parle de ce livre comme un enfant, parce qu'elle me dit, tu ne sais absolument pas ce que c'est que de mettre un enfant au monde. mais moi, je le compare souvent à un enfantement, parce que, vous savez, un livre, c'est comme quelque chose qui naît en toi, qui grandit en toi, et qu'au bout d'un moment, il y a la délivrance que de le sortir. Et ma femme dit, non, arrête-toi, tu ne sais pas ce que c'est. Ce livre s'appelle « Chrétien et amoureux », parce que je suis venu à la foi chrétienne suite à une rupture sentimentale. Déjà, ça a été compliqué. Ma copine de l'époque m'a quitté pour un ami à moi. Mais ne soyez pas trop triste pour moi, parce que c'était c'est le moment le plus important de ma vie, parce que ça m'a fait peut-être tomber en dépression, mais c'est ce qui m'a enfin fait lever les yeux vers le ciel. Vous trouverez à l'intérieur de ce livre une partie de mon témoignage, de notre témoignage avec Pauline, notre rencontre. Ça parle des fréquentations, ça parle de comment on fait des choix amoureux, donc ça parle des fréquentations et des choix amoureux, mais ça parle aussi de manière générale, vous savez, des choix qu'on fait dans la vie. Parce que moi, quand je suis arrivé dans l'Église, je ne voulais plus faire les choix par moi-même. Et donc, je voulais que Dieu me guide et fasse presque les choix pour moi. Et donc, je me demandais comment Dieu allait me montrer sa volonté. Et ce n'est pas si simple de capter la voix de Dieu, de faire des choix inspirés de Dieu. Moi, je voulais presque que Dieu fasse ses choix à ma place, mais j'ai vite compris que Dieu allait me montrer sa volonté, que ses choix allaient être quand même les miens. Et je crois qu'un chrétien mature, ce n'est pas juste quelqu'un qui est, vous savez, téléguidé par l'esprit ou par Dieu, comme ça, par le bout du nez, sans comprendre le sens. Je crois qu'un chrétien, de plus en plus, avec la maturité, c'est quelqu'un qui est transformé à l'image de Christ et qui est appelé à faire de bons choix pour sa vie. Et je l'ai dit aux jeunes hier, j'étais à l'ARJ Login, et je disais, en fait un chrétien, quelqu'un qui est transformé à l'image de Christ, il est rendu apte à faire des choix pour sa vie, et des bons choix te mènent à la bonne destination. Donc, de faire des bons choix, des choix inspirés de Dieu, je crois que c'est ça aussi qui doit nous guider. Et parfois, on ne sait pas sur quoi on base nos choix. J'ai remarqué cela, après maintenant un peu d'expérience de vie chrétienne, des fois on est guidé par un sentiment passager, parfois par un Dieu m'a dit, parfois par des circonstances. Et là, pour un choix amoureux, j'ai remarqué qu'il y avait aussi de mauvais choix. Et vous savez que le sentiment amoureux, les échecs amoureux, c'est des choses qui laissent des empreintes profondes en nous. J'ai accompagné assez de gens pour savoir que la rupture sentimentale, la douleur d'avoir été quitté, c'est même parfois plus profond que d'avoir perdu un être cher. J'ai vu des gens passer plus facilement par-dessus un deuil que par-dessus un échec sentimental. Et je vois des signes, des gens qui me font oui. Mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que dans les ruptures amoureuses, il y a un sentiment de rejet. Quelqu'un qui te dit « tu ne me vas pas, tu ne me conviens pas ». Et de faire un mauvais choix, ça peut vraiment avoir un impact, des cicatrices pour le reste de nos existences. Et je crois que c'est pour ça que ce n'est pas un petit choix. Donc ça parle des relations amoureuses, mais ça parle de manière générale. Si, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « ah, je vais l'acheter pour mon fils, je vais l'acheter pour ma fille ». Lisez certains passages quand même, je peux vous dire, ça va vous concerner quand même, ça va vous faire réfléchir également sur la notion des choix. Et je crois que c'est bon aussi de lire avant de donner à quelqu'un, peut-être aussi, ce qu'on donne, ce qu'on transmet. Mais moi, ça a été un choix important dans ma vie, et pas un petit choix, le choix amoureux. Et le témoignage que je raconte aussi à l'intérieur, c'est ma conversion, tout simplement une histoire de conversion à l'intérieur de ce livre. Moi, je raconte qu'en fait, j'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 7 ans. Et en fait, c'est sur un été, mais, en fait, je ne le savais pas, mais mes parents étaient sur le point de divorcer. Mais j'ai des parents très aimants, mes parents, ils m'aiment énormément. Mais je ne savais pas que dans les coulisses, le diable était en train d'opérer. Mes parents n'étaient pas chrétiens, à l'époque en tout cas. Et en fait, ma mère disait, me raconte aujourd'hui ce témoignage, elle dit, mais j'arrivais plus à aimer ton père parce que le diable m'avait obscurci le regard et je ne voyais plus que les défauts de ton père. Et ce n'est pas que je ne voulais pas l'aimer, je ne voulais absolument pas éclater la famille cellule familiale, mais elle dit, je ne savais pas comment faire, je ne l'aimais plus au final. Et vous savez très bien que le diable fait ça très très bien, que de nous montrer les défauts les uns des autres pour nous diviser. C'est ce qu'il fait dans l'Église, c'est ce qu'il fait dans toutes nos relations familiales, c'est nous montrer les défauts. Et c'est ce qu'il a fait dans le couple de mes parents. Et le problème, vous savez quoi, c'est qu'on en a des défauts. Donc c'est pas difficile pour le diable de trouver nos défauts, on en a quand même pas mal. Et donc ma mère ne voyait plus que les défauts de mon père. Et elle est sur le point de divorcer, mon père ne voulait pas divorcer, mais ma mère disait, moi c'est comme ça, je n'arrive plus à t'aimer, je ne veux pas rester avec quelqu'un que je n'aime plus. Sauf que ma tante, alors c'est une histoire un peu alambiquée, mais ma tante qui est au Japon, elle s'est mariée avec un Japonais. Et vous savez, il y a des bases américaines au Japon, issues de la guerre. Et dans une base américaine, elle qui n'était pas chrétienne, elle rencontre le Seigneur, et elle est touchée par le message de l'Évangile, et elle est transformée. Et elle apprend que sa sœur va divorcer. Et elle revenait tous les étés, elle dit, attends, avant de divorcer, signe pas les papiers tout de suite. Je te demande juste une chose, je reviens cet été, et je t'emmène à un camp, à Chambon-sur-Lignon, je me rappellerai toujours, c'est un petit camp certains connaissent peut-être Chambon-sur-Lignon ? Ouais, ok. C'est un lieu connu apparemment où Dieu habite aussi. Je l'ai découvert là-bas en tout cas, moi. Et j'arrive, en tout cas, on va là-bas, ma mère me prend, moi, mon frère, je ne comprends pas trop pourquoi il n'y a pas papa, peut-être qu'il est occupé, mais pour moi, comme je vous dis, je ne vois pas ce qui se joue dans les coulisses, je ne sais pas que c'est un moment important du reste de mon existence. Et on va à ce camp, il y avait un chapiteau comme ça, central, auquel on allait participer aux réunions le soir. Il y avait une telle atmosphère dans ce chapiteau. Moi qui ne comprenais rien à Dieu, par contre, je comprenais qu'il se passait quelque chose. J'étais impacté à chaque fois par les messages le soir. Et un soir, ma mère se lève et donne sa vie au Seigneur. Je suis à côté, je suis tellement impacté par ce qui prend place. Alors, je ne me rappelle pas du message du prédicateur de ce soir-là, désolé pour lui. Peut-être que vous ne vous rappellerez pas de mon message, d'ailleurs, après cette matinée, ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, c'est la décision qui a été importante, plus que le message. Et la décision, ça a été de, même si j'avais 7 ans, je me suis levé à côté de ma mère et je donnais ma vie au Seigneur également à 7 ans. Et ça a tout changé pour mes parents, ça a sauvé le couple de mes parents. Ma mère a dit instantanément, les écailles sont tombées de mes yeux, j'ai été rendu capable de voir à nouveau ce qu'il y avait de beau chez ton père et j'ai retrouvé un amour pour lui comme je ne connaissais même pas jusqu'ici. Ça a sauvé vraiment le couple de mes parents. Et je pense que je ne mesure pas comment mon histoire est différente grâce à l'intervention de Dieu. J'aimerais vous dire que pour moi, de 7 ans jusqu'à aujourd'hui, 25 ans, comme vous en doutez, j'ai navigué avec Dieu, j'ai pas lâché sa main, mais moi j'ai grandi loin des églises. J'étais dans un petit village en plein milieu de la France et je croyais que j'allais réussir à être chrétien dans ce petit village-là, mais il n'y avait pas de chrétiens en fait. Et au fur et à mesure des amitiés qui passent, je ne sais pas qui influence qui, parce que j'allais dire c'est mes amis qui m'ont influencé. Au bout d'un moment, c'est peut-être moi qui les ai influencés aussi. Mais j'ai lâché la foi. Je suis parti dans une vie d'hédonisme, c'est-à-dire c'était la vie du plaisir tout simplement. Je sortais beaucoup, mais je buvais, je fumais aussi un peu de drogue, mais rien de plus, rien de moins que ce que les jeunes font aujourd'hui juste pour s'amuser. C'était pas un toxico ou je sais quoi, mais par contre j'avais besoin de ça pour m'amuser. Et une vie qui est basée sur l'amusement, mais une vie qui ne me plaît pas, une vie où je ne sais même pas si je crois encore en Dieu. Je pense qu'il y a comme quelque chose qui est semé en moi, mais vraiment, j'oublie ce monde-là. Et c'est aussi pour ça que je crois en l'église locale, parce que nous, on n'avait pas d'église locale. Honnêtement, j'ai grandi sans avoir de vie d'église. Et je ne dis pas que c'est à cause de ça, mais par contre, c'est aussi une des conditions qui a fait qu'on a quitté la foi. Et c'est pour ça que nos enfants, c'est pour ça que je veille à ce que mes enfants et que nos jeunes et nos ados doivent avoir des amitiés chrétiennes. Dieu ne nous appelle pas à sortir du monde, mais c'est un équilibre. Il faut qu'on régulièrement on partage du temps avec des gens qui ont la même espérance que nous. C'est tellement important. Parce qu'on est tellement plongé dans un monde qui a une autre espérance. C'est important que nos enfants puissent côtoyer, leur trouver des amitiés chrétiennes. C'est important vraiment l'église locale. J'y crois à fond. C'est pour ça que j'aime la jeunesse particulièrement. Je vous aime aussi, hein, mais j'aime vraiment les jeunes quand même. Et c'est aussi parce que c'est un âge, forcément, vous vous en doutez, j'ai pris des mauvaises décisions. Et oui, moi, je dis souvent à l'époque, j'ai une vie comme ça qui tourne en boucle. Je connais plus le DJ que ma mère, on va dire. Et ma mère, elle n'est pas DJ, donc c'est un vrai problème. Et je sors beaucoup, et jusqu'à cette rupture sentimentale qui a tout changé. En fait, cette rupture, elle me fait tout perdre. Ma copine travaillait avec moi. Et en fait, je ne supportais pas de voir leur amour naissant devant moi, on va dire, avec ce copain-là, ce gars-là. Et je quitte mon travail, je demande à mon patron de faire une rupture et à l'amiable, ce qu'il accepte d'ailleurs. Mais du coup, je perds aussi de l'argent, je ne peux plus assumer mon loyer. Donc en fait, je retourne chez mes parents à l'âge de 27 ans. Bon, vous comprenez que je n'ai pas 25 du coup. Mais je me suis trahi moi-même. Mais la vérité, c'est que je retourne chez moi à 27 ans et je fais un constat d'échec sur ma vie. Et je dis, Seigneur mon Dieu, j'ai essayé par moi-même, j'ai juste gagné une douleur au cœur là, avec toutes mes années. J'ai essayé par moi-même et je demande à Dieu d'essayer. En fait, j'ai même dit à ma mère, écoute, elle essayait toujours de m'amener à la réunion, ma mère. Elle me disait, ok, est-ce que tu ne pourrais pas y aller? Ma mère a trouvé toujours des occasions et tous les arguments de la terre pour que j'aille à la réunion. Et là, ce jour-là, c'est moi qui demande d'y aller à la réunion. Je reviens, je suis complètement au fond du trou. Je dis, maman, est-ce qu'il n'y aurait pas une réunion? Et là, ma mère a dit, oui, je vais trouver ça, une réunion. Attends, je vais regarder dans l'agenda. Oui. C'est pas grave, s'il n'y en a pas une, je vais l'organiser à la maison de réunion, mais tu vas avoir une réunion, ça c'est sûr, toi. Et là, on va chez les gens du voyage, parce que nous, l'église la plus proche, c'était une communauté des gens du voyage, qui était à 30 minutes quand même, mais en tout cas, on va dans cette réunion-là, et là, je donne ma vie au Seigneur. Et là, tout commence pour moi. Moi qui pensais vraiment que j'allais même pas, que Dieu n'allait pas pouvoir reconstruire mon cœur, il m'allait vraiment restaurer mon cœur. Et il m'a donné un but, des aspirations nouvelles. Moi, jusqu'ici, il fallait me donner de l'argent pour que je lise la Bible. Tout d'un coup, j'avais envie de la dévorer. Et vous savez, comme tout d'un coup, justement, cette passion qui arrive pour le royaume, ça, c'est instantané. Vraiment, c'est la nouvelle naissance. Il n'y a pas d'autre mot. Tout d'un coup, je suis passionné des choses de Dieu. Tout commence pour moi. Je pense que je vais rester dans mon petit village à réussir à développer ma foi. Mes amis, ils cherchent à m'emmener toujours en boîte de nuit. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce qu'au début, je refuse en disant « Non, maintenant, je suis chrétien. » Il dit « Oh, mais nous, ça ne dérange pas que tu es chrétien, mais viens avec nous quand même. » Je dis « Je vous préviens, je vais y aller en boîte de nuit, mais je vais convertir tout le monde. » Oui, tu penses. Je vais en boîte de nuit, je suis alcoolisé, bourré plus que d'habitude, en gros. Et alors que jusqu'ici, ça me faisait rigoler, maintenant, je culpabilise en plus. Donc, c'est pire que tout. Donc, j'ai bien compris qu'il fallait que je ne reste pas là. Et mon frère me propose d'arriver à... Il me sort de mon milieu. Dieu m'a vraiment sorti de mon milieu. Des fois, vous savez, des fois, et je trouve que c'est un peu la pensée de Joseph. Vous savez, quand il résiste, il y a le fait qu'il résiste à la femme de Potiphar. Il ne fait pas que de résister. À un moment donné, il faut fuir. Il faut changer de milieu, en fait. À un moment donné, et des fois, on cherche trop à résister, alors que parfois, il faut juste être baigné dans un autre bain. Il faut juste fuir. C'est juste une autre pensée, peut-être que quelqu'un peut saisir, mais vraiment, des fois, il ne faut pas juste résister. Des fois, la fuite, c'est la bonne direction. Des fois, il faut sortir du milieu. Et Dieu, moi, et vraiment, cette proposition de mon frère, elle était salutaire. Il m'a baigné dans un autre milieu. Moi, je ne connaissais pas ce que c'était le monde chrétien. Je l'ai raconté aux jeunes hier. Je disais, mais moi, les chrétiens, je disais, bof, quoi. Ouais, genre, je ne sais pas ce que je vais m'amuser avec des chrétiens. On va faire quoi ? J'arrive à Angoulême. Je me dis, on fait quoi ? C'est quoi les chrétiens ? Ils font quoi en soirée ? Ils font des scraps de chrétiens, certainement. Avec des mots chrétiens comme Abraham. T'as quoi, Abraham ? Abraham avec un H ou sans H ? Parce qu'avec un H, ça compte plus de points. Oui, genre, ça me fatigue. J'avais pas envie, mais j'ai découvert que la foi chrétienne et la vie de l'Église, c'est bien plus joyeux, bien plus vivant et bien plus libre que ce que je pouvais imaginer. Oui, la liberté, ça me parle, parce que moi qui pensais être libre jusqu'ici, j'étais bien esclave de bien des choses, et la liberté, je l'ai trouvée en Jésus. C'est pour ça que je suis passionné de la jeunesse, il faut leur envoyer un message de liberté. Ma vie, elle a commencé à ce moment-là. C'est là que j'ai rencontré ma femme, c'est ce que je raconte dans ce livre. Et j'ai dû prendre la décision, choisir également qui était la personne qui allait m'accompagner pour le reste de mon existence. Je crois vraiment que la vie en Christ, il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire avec une vie brisée. Vraiment, je veux vraiment encourager. C'est pour ça que j'ai pris le temps quand même de raconter mon témoignage. Je n'avais pas prévu de le partager autant. Mais des fois, vous savez, un témoignage, ça parle fort, presque plus qu'une prédication. Donc je me suis permis de prendre un peu de temps pour ça. Parce que certains, peut-être, vous reconnaissez à travers peut-être une partie de mon témoignage. Mais quoi qu'il arrive, j'ai envie de te dire, il y a de l'espoir pour toi. Dieu a fait des choses tellement au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. La vie avec Dieu, c'est tellement plus passionnant que ce que je pouvais penser ou imaginer. Des fois, on remet tellement les choses de Dieu à plus tard en se disant, bah non, je vais d'abord faire ça et puis, oh là là, si je pouvais. Moi, mon histoire, je le dis, c'est pour ça que j'aime prêcher aussi à la jeunesse, j'ai tellement envie de leur dire, mais j'ai l'impression d'avoir, c'est pas l'impression, j'ai perdu du temps. Certains diront toujours, oui, mais Ben, peut-être que Dieu l'a permis pour que ça soit un témoignage pour sa gloire. Non, je crois pas que le plan de Dieu, c'était que je m'égare. Je crois qu'il transforme le mal en bien, ça c'est une chose, que ce témoignage devienne puissant pour lui, peut-être à la limite. Mais par contre, je crois que le plan de Dieu, ce n'était pas que je m'égare. Moi, je crois que ma vie a commencé 20 ans plus tard. Et j'aurais aimé ne pas lâcher la main de mon Seigneur. Et c'est pour ça que j'ai envie de le dire à quelqu'un, peut-être ce matin, qui tarde, qui attend, ta vie a peut commencer ce matin. Mais la vie avec Dieu, elle est tellement plus passionnante que ce que tu pourrais produire par toi-même. Donc laisse-moi te dire que moi, j'aimerais me prêcher à moi-même. Je cherche Ben Giraud, en fait, ce matin. Quelqu'un s'appelle Ben Giraud ? Non, j'espère pas. Sinon, tu vas être obligé de changer de prénom, parce que je ne supporte pas qu'il y ait d'autres Ben. Je suis venu avec un message d'encouragement ce matin. Un vrai message d'encouragement pour vous ce matin. Je crois que ce matin, il y a des gens, vous allez revenir à Dieu, comme peut-être il y a longtemps que tu n'as pas reconnu cette proximité avec Dieu. Des gens, vous allez être réconciliés avec Dieu. Je connais la fin de cette réunion. Je connais d'autres fins aussi. Je sais que Jésus revient aussi également. Je connais la fin de l'histoire. Il y a d'autres fins, des histoires que je peux vous raconter. Mais la fin de cette réunion, je crois vraiment qu'il y a des gens, vous allez retrouver une proximité avec Dieu. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Je t'ai vu ». Je t'ai vu. Tellement important le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Je crois qu'on n'utilise pas assez le regard de Dieu. Le fait que Dieu nous voit, le fait que Dieu nous regarde, ça devrait nous apaiser. De savoir que Dieu a vu. Je le vois avec mes enfants, par exemple. Mes enfants, quand, par exemple, ils se disputent, j'entends que mon fils et ma fille, j'ai deux enfants, ils se disputent dans la chambre et je les entends crier. Là, tu sens la tension qui monte, l'apocalypse qui commence à prendre place dans la chambre. Alors moi, je me pointe souvent discrètement comme ça. Je n'interviens pas trop fort au début. Je veux juste regarder un peu la scène quand même pour pouvoir avoir des éléments de réponse. Et là, comme ça, non, c'est toi. Non, je vais le dire à papa. Et là, tout d'un coup, elle se retourne et elle me voit. Ah, OK. Elle dit pas un mot. Elle sait que j'ai vu. Et donc, en fait, ça apaise la scène tout de suite. Parce qu'en fait, puisque papa a vu, il va intervenir. Et puisqu'il a tout vu, en fait, je peux pas, ça ne sert à rien d'argumenter. Sa réponse va être juste. Et en fait, je trouve souvent qu'on n'utilise pas assez ce regard de Dieu, qu'on ne comprend pas assez que Dieu nous voit. Et que même les choses qu'on dit, oh, mais c'est injuste ce qu'il m'a fait, Regardez comment mon patron, il me l'a fait à l'envers. Et puis, on se rebelle comme ça à l'intérieur. Mais en fait, Dieu a vu. Et le fait que Dieu a vu, moi souvent quand Dieu veut m'apaiser, il me dit j'ai vu. Et en fait, ça m'apaise. Parce que tout de suite le réflexe, et c'est comme ça qu'on devrait être comme des enfants, qui se disent ok, je crois qu'il a vu. Et puisqu'il a vu, on sait toujours que sa réponse elle est juste. Je ne sais pas encore comment, il ne va peut-être pas répondre comme moi j'aurais aimé qu'il réponde, ça c'est sûr, sa réponse est différente de la mienne. Mais par contre, je sais qu'il va être juste. Et je sais qu'il a vu. Et j'ai envie de le dire à quelqu'un ce matin, Dieu a vu. Dieu a vu ton injustice, Dieu a vu les larmes aussi, que personne n'a vu. Dieu a vu aussi les choses positives que tu as faites, que personne n'a encouragées, mais Dieu a vu. Je t'ai vu, ça, Ça vous parle de quel personnage biblique? Est-ce qu'il y a un personnage biblique qui ça vous évoque le « je t'ai vu » Ok, je vois qu'on ne lit pas la Bible ici. Alors, celui que je vais parler ce matin, il y a une vraie possibilité avec Zachée, mais il y a quelqu'un d'autre que je vais parler ce matin. Et je vais offrir mon livre. Alors là, je monte la... Non. Nathanaël. David, purée. Écoute, David, voilà. Tu le transmettras à qui te semble. Est-ce qu'on peut applaudir David, s'il vous plaît? Bien. Alors, on lit le passage qui parle de Nathanaël ensemble. Jean chapitre 1 et verset 43. Je vais le lire pour vous, pour ceux qui n'ont pas la Bible devant eux. Jésus décida de se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et lui dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois ? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Nathanaël était un juif qui connaissait les textes, qui méditait la parole. Il savait qu'il y avait un Messie qui était à venir. Il savait qu'il y avait un Messie, le Christ à venir. Il connaissait toutes ces choses. Mais il avait des préjugés. Il avait des préjugés. Pour lui, rien ne pouvait venir de bon de Nazareth. Et à partir du moment où il a cette information, il pense que ça ne peut pas être lui. Et, sauf qu'il y a un chiffre dans cette histoire-là. Et tout d'un coup, comme pour ma maman d'ailleurs, les écailles tombent de ses yeux. Et il réalise tout d'un coup, il dit « Oui, c'est sûr, c'est toi. » Et cet élément déclencheur, c'est ce « je t'ai vu ». Ce « je t'ai vu » qui change tout. Ce « je t'ai vu » qui change totalement la situation et qui fait que tout d'un coup, quelqu'un qui ne croyait pas se met à croire passionnément. Et j'aimerais... les commentateurs, je sais qu'on se pose beaucoup de questions sur ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Vous savez qu'il y a tellement d'hypothèses, de commentaires. C'est comme si on cherche qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier. On est tous en train de mettre notre attention là-dessus. Moi, je vais vous le dire. Je ne sais pas. Vous êtes déçus, non? Vous êtes déçus et en fait, moi je me dis, pourquoi la Bible n'en parle pas? Parce que tout simplement, c'est parce que ce n'est pas ça l'information importante. L'information importante, ce n'est pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier. Le plus important de comprendre dans cette histoire, c'est que Dieu a vu et que Dieu voit. Mon premier point pour vous, c'est que Dieu sait tout et Dieu voit tout. Je sais que ça paraît évident, mais parfois dans nos vies, on vit comme si on pouvait se cacher de Dieu. Des fois, il y a des choses où on se dit, si je ne lui parle pas de ça, peut-être qu'il va pas me demander quelque chose par rapport à ça. Il y a des choses comme ça qu'on n'évoque pas, il y a des choses qu'on garde un peu secret même devant Dieu. On croit parfois qu'on peut se cacher de Dieu, mais se cacher de Dieu, c'est impossible. Dans cette histoire, on voit que Jésus est capable de voir ce que Nathanaël a fait sous le figuier, mais il y a autre chose aussi qu'il est capable de voir. Oh, il y a dans le cœur de cet homme, il n'y a aucune ruse. Donc en fait, Dieu voit non seulement les actions, mais il voit également les intentions. En fait, tu ne peux rien cacher à Dieu. Il y a un double miracle, il y a une double vision impossible. Donc, Dieu voit nos intentions, et même si parfois, aux yeux des hommes, on fait des bonnes actions, Dieu sait le cœur avec lequel on le fait également. Je me rappellerai toujours, vous savez, j'ai été récemment dans un magasin, et quand je suivais un couple comme ça qui était un peu en train de se disputer, et je ne comprends pas trop pourquoi ils se disputent, sauf que quand je rentre dans le magasin, j'entends la femme parler et je comprends quel était le propos. En fait, on venait de passer vers quelqu'un qui mendiait, qui demandait l'aumône juste avant de passer dans le magasin. Et en fait, je comprends qu'en fait, ils n'étaient pas d'accord si on allait donner de l'argent ou pas. Et là, comme ils se prennent la tête, j'entends la femme dire « Oui, rien que pour t'embêter, moi je vais lui donner 2 euros ». Je me suis dit « Bonne action ou pas bonne action ?» Au final, on est un peu... Alors, je pense que le mendiant, lui, s'en moque. Je pense que lui, oui, moi, c'est pas grave. Le cœur... Mais vous voyez, cette réalité avec laquelle, des fois, on peut faire une bonne action, mais ne pas le faire avec un bon cœur. Et Dieu, on peut faire semblant auprès des hommes, mais Dieu voit nos cœurs. On ne peut rien cacher à Dieu. Mais c'est avant tout infiniment positif, les amis, cette pensée. Parce que ce Dieu qui voit tout, voit également les efforts que l'on fait, voit également les moments où on tient bon, alors qu'on aurait pu lâcher, et ces moments où il n'y a personne qui nous voit. Et ça, ça peut arriver dans beaucoup de moments. Je dis souvent que les plus grandes victoires de nos vies sont remportées loin des regards, loin de la foule. C'est tout seul dans ta chambre, alors que tu aurais pu cliquer sur ce site internet et que tu ne le fais pas. Là, il n'y a pas une foule qui t'applaudit. Mais par contre, je crois que Dieu, depuis son ciel de gloire, lui, il est en train de valider un caractère. Il a vu, lui. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre. Vous savez, ce Dieu qui voit justement les efforts que l'on fait alors qu'il n'y aurait personne pour nous encourager. Ça peut parler de jeunes qui sont à l'université, je ne sais pas, qui... Vous savez, être seul, ce n'est pas forcément être seul dans sa chambre, comme je viens de le décrire. Des fois, c'est être seul, le seul chrétien, par exemple, au milieu d'une foule, se sentir seul. Et puis, tu es encouragé par les autres à faire comme ça, à aller dans telle soirée, à te comporter mal, à médire, ou alors à dire des propos injurieux, ou à dire des mauvaises choses sur telle ou telle personne. En fait, là, tu es même encouragé par les autres à faire quelque chose. Et tu sais que si tu ne le fais pas, tu vas plutôt être mis de côté. Donc là, tu te sens seul, parce que toi, tu es avec tes valeurs. Et quand tu ne le fais pas, Dieu dit, ah, moi j'ai vu. Moi j'ai vu. Il n'y avait pas personne pour applaudir, mais tu peux entendre les applaudissements célestes. Dieu dit, moi j'ai vu et je suis fier de toi. Dieu voit les injustices de nos vies. Dieu voit quand parfois on fait des efforts. Et moi, en fait, c'est difficile parce que parfois on fait des bonnes actions, mais loin des regards. Des fois, on n'a pas toujours les encouragements. Je me rappellerai toujours, une fois, j'ai aidé, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas chrétien encore à l'époque, enfin, vous avez compris, c'était dans mes années d'égarement. J'ai fait une bonne action, j'étais jeune, j'étais dans mon petit village comme ça, et j'ai vu devant moi venir une petite mamie qui avait peur, qui était un peu fébrile comme ça, elle me dit « Ah, jeune homme, pouvez-vous m'aider à traverser le pont, j'ai le vertige ?» Oh, je me suis senti quelqu'un d'extraordinaire, je me suis dit « Oui, petite mamie, bien évidemment, hein, je vais vous aider à traverser le pont comme ça, puis je tends mon bras comme ça, et c'est la première fois que je faisais une bonne action comme ça. J'avais vraiment l'impression d'être un gars bien, j'allais dire « Waouh !» Et vous savez, comme ça, aujourd'hui, il y aurait eu. C'est pas à l'époque où il y avait les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. C'est là que je vois que je date un peu en termes de génération. En fait, à l'époque, j'aurais sorti mon portable en disant hey, petite mamie, comment ça va? Qui c'est qui est en train de vous secourir? Et j'aurais vu mes followers monter en masse. Et non, j'ai pas eu la gloire que je méritais. Mais en fait, dans ma. Je traverse. En fait, la vérité, la scène, il n'y a pas grand monde. Il y a deux, trois personnes qui voient comme ça. Et je me dis, oh, ils doivent se dire en me regardant, ce mec est un mec génial. Quoi. Tu vois, génial. Non, en fait, vous savez, la scène, elle est comme ça. Là, il ne se passe pas grand-chose. Mais dans ma tête, il y a des applaudissements. Faites avec moi comme ça. Voilà. Ce mec est un mec génial. Ça, c'est ce qui se passe dans ma tête. Merci de m'avoir rendu la gloire que je méritais quand même, quelques années plus tard. Pasteur orgueilleux que je suis. Il n'y avait personne pour applaudir. On aimerait tellement, parfois on fait des efforts, et on en fait des sacrifices parfois, il n'y a personne pour applaudir. Laissez-moi vous dire qu'il y a un Dieu qui voit vos efforts. Là, tu as entendu des applaudissements, mais c'est rien par rapport à ce Dieu qui valide le caractère qui prend place quand tu fais des efforts. Alors que loin des regards, loin de la foule, loin de tes amis, loin de l'église. Parce que je sais combien c'est facile parfois de prendre des victoires ici, alors que tout le monde regarde. Il faut le faire. Mais les vraies victoires, elles prennent place dans le quotidien. Quand il n'y a plus personne pour applaudir et à regarder. Mais Dieu te voit. Moi, je me rappelle une fois, et je le décris dans ce livre d'ailleurs, c'était au début de ma vie chrétienne. Au début de ma vie chrétienne, en fait, donc je fais des soirées avec mes nouveaux amis chrétiens. Je commence tout juste à fréquenter Pauline. Et on est en couple, donc officiellement, et le groupe de jeunes le sait, je suis leader de jeunesse à cette époque-là. Et là, il y a un anniversaire qui prend place dans le groupe de jeunes, et je suis invité à faire le DJ. Alors, les gens se disent, c'est peut-être à cause de son ancienne vie, peut-être, je ne sais pas pourquoi on m'a proposé ça, alors que je ne faisais pas du tout le DJ. D'ailleurs, on ne m'a jamais réinvité à faire le DJ, je ne dois pas être si ouf que ça, hein, je pense, très honnêtement. Et je fais le DJ dans cette soirée-là, et là, je me mets au fond de la salle, la soirée se passe bien, et sauf qu'il y a une fille qui rentre du groupe de jeunes, qui rentre avec une tenue, mais absolument pas adaptée à la soirée. Okay, elle a un décolleté, il y a plus de peau que de tissu. Quoi. C'est comme ça, c'est pas adapté à la situation. Et là, moi, je suis dans... Vous comprenez, j'ai vécu 20 ans dans le monde, j'ai pas toujours les regards très bien placés, j'apprends à contrôler mes regards. Rassurez-vous, mesdames, aujourd'hui, je n'ai fait plus aucun effort, ça me va très très bien. Dieu m'a transformé, Dieu m'a changé. Mais vous comprenez, je suis au début de ma vie chrétienne, je sens le danger. Et justement, je fuis la tentation. Je dis non. Et je prends ma table de DJ, je me mets dans un petit coin comme ça pour faire la musique. Je dis non, je fuis comme ça. Et là, j'entends des petits pas venir jusqu'à la table du DJ. Et c'est la fille qui me parle, elle me dit « Salut Ben !» Je fais très mal les voix féminines, hein, j'avoue. Et là, je le sais, je suis assis, elle est debout, géographiquement, ça ne se passe pas bien. Et là, je le sais. Je lui dis « Non, je veux la regarder dans les yeux, résister. » Et là, je lève les yeux, je regarde son regard, et jamais j'ai baissé mes yeux dans son décolleté. Victoire ! Moi, je crois... Franchement, je suis dans un coin. Certains ont failli applaudir. C'est pas grave. Vous n'êtes pas obligés. C'est une victoire pour moi. Il n'y a personne qui regarde. Je suis là, je suis dans mon coin. Vraiment, je sais que Dieu regardait, par contre. J'étais conscient du regard de Dieu. Et je sais que j'étais un leader, que j'avais un témoignage. Donc, c'était dur, mais j'ai résisté. Et quelques mois plus tard, j'ai ma femme qui me reparle de cette soirée. Elle me dit, c'était bien cette soirée d'anniversaire. Ouais, c'était bien. Elle me dit, tu te rappelles de la jeune fille qui est rentrée? Elle donne son nom. Elle dit, tu te rappelles de la jeune fille qui est rentrée? Et là, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, en fait. Si je dis oui, elle dit, t'avais vu toi aussi. Et si tu dis non, elle me dit, mytho, tout le monde sait. Et en fait, elle me rassure tout de suite. Je lui dis, alors, je choisis l'option de l'honnêteté, ce qui est plutôt pas mal. Et elle me dit, non, mais je te rassure. Tout le monde avait vu sa tenue, c'était complètement inapproprié et tout ça. Mais elle dit, tu te rappelles quand elle est venue auprès de toi à la table du DJ? Oui. Elle dit, je vous ai vu. Et elle dit, j'ai vu que ton regard ne s'est jamais détourné de son regard. Et c'est ce qui contribue à la confiance que je t'accorde aujourd'hui. Je savais pas que je passais un test, moi, à ce moment-là. J'ai failli lui dire. Non, je lui ai dit d'ailleurs depuis, je lui ai dit, si tu savais ce qui se passait dans ma tête. Des fois, on passe des tests loin des regards, les amis. Loin des regards, loin de la foule, loin des applaudissements. Il y a des choses qui se passent où Dieu regarde et valide. Il y a des choses qui sont validées dans les lieux loin des regards. J'aimerais vous encourager à tenir bon dans ces moments-là. Parce que même s'il n'y a personne qui applaudit et qui valide, je crois que Dieu regarde avec beaucoup d'attention ce qui se passe dans ces moments-là. Si on est des chrétiens ou des disciples. Et je crois que, je ne sais pas, je ne suis pas en train de dire que si j'avais fauté à ce moment-là, est-ce que Dieu m'aurait donné une deuxième chance de prouver que j'étais quelqu'un de fidèle, de fiable? Peut-être. Mais en tout cas, une chose est sûre, je crois qu'il y avait une attention toute particulière sur ce moment-là. Il y avait un moment de tension et parfois, on les néglige, ces moments-là. Loin des regards, parce que Dieu voit. Nous, en fait, on a peur de ce regard. On a peur de ce regard. Nous, en fait, la première réaction par rapport au regard de Dieu, c'est on a peur. Moi, par exemple, des fois, je me dis, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Par exemple, Dieu, il connaît, ça c'est beau, hein, d'ailleurs, il a déjà entendu toutes les prières qui ont existé. Il a entendu les prières de Moïse, de David. Waouh, les plus belles prières, éloquentes, ça devait être juste magnifique. Et puis des fois, il entend ma prière à moi le matin. Il est en train de m'endormir des fois sur ma prière. Je veux dire, le Dieu qui voit tout, des fois, ça nous fait peur aussi, ce Dieu qui sait tout, qui voit tout. On se compare. On a peur des fois de ce Dieu qui voit tout. On a peur parce qu'on se dit, mais par rapport à qui il est, par rapport à ce que je suis, on se disqualifie par rapport à ce Dieu qui voit tout parce qu'on veut aussi être parfait alors qu'on ne l'est jamais en fait finalement. Et le réflexe de l'homme naturellement, c'est mon deuxième point, le réflexe naturel de l'homme est d'avoir peur de ce Dieu qui voit tout. Mais ça c'est depuis la Genèse en fait. Depuis la Genèse, on a toujours peur de ce regard de Dieu. Nous, on ne l'utilise pas de manière positive, le fait que Dieu voit. Nous, on l'utilise bien souvent pour avoir, par la peur, la crainte de ce regard. Genèse chapitre 3 et verset 8, quand ils entendirent, vous savez, c'est juste après la chute dans le jardin d'Éden, quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. Et on sait que le dénuement, il est physique, mais il est aussi... Le fait d'avoir dévoilé le péché, vous savez, c'est ce sentiment de honte, sentiment d'être nu. On sait qu'on est nu devant Dieu. Il y a ce sentiment de « j'ai peur parce que tu me vois tel que je suis ». Et nous, notre réflexe naturel, c'est de s'éloigner de Dieu, de se cacher de Dieu à partir du moment où on a fait quelque chose de mal. Et bien souvent, moi, c'est comme ça que j'explique aussi mon témoignage, moi, j'ai tardé à venir à la foi chrétienne parce que j'avais peur de ce regard de Dieu. Pour moi, Dieu, c'était un être céleste qui était dans son ciel de gloire, dans les nuages, comme on nous les décrit, puis qui nous voit, et qui est prêt à nous tomber dessus pour chacune de nos erreurs. Comme un vigile. Je disais aux jeunes hier, moi j'ai peur toujours du vigile. Le vigile, même quand j'ai rien fait de mal, j'ai peur. Je ne sais pas si ça vous arrive d'aller dans un magasin et de rien avoir pris, et de tomber sur le vigile. Et c'est parce que tu passes par la caisse, mais du coup, tu ne payes rien. Et donc, tu tombes sur le vigile. Et moi, quand je regarde le vigile, des fois, la dernière fois, ça m'est arrivé à Action, comme ça, je sors par la fameuse caisse numéro 1, un peu plus large, là, comme ça. Et presque, je m'excuse de rien avoir pris. Désolé, je passe parce que j'ai rien pris. Ah bah non, vraiment, j'ai rien trouvé, hein, je vous le dis. Non. Pourtant, à Action, on trouve toujours quelque chose. Alors, non, je suis désolé. Et là, je tombe sur le vigile. Et là, dans ma tête, il se passe. Il me dit, fais le mec cool. Fais le mec qui n'a rien à se reprocher. Alors que j'ai rien à me reprocher, c'est genre. Et là, je commence à avoir une démarche semi-cool, semi-bizarre, tu sais, vraiment. Je suis le mec le plus chelou de tout le magasin, vraiment. Et le vigile, il se dit, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais lui, il a fait un truc. C'est sûr, il doit appeler ses collègues dans l'oreillette. Parce qu'on a peur. On a peur. Moi, j'ai peur du vigile. J'avais cette vision du vigile, de ce Dieu qui allait me tomber dessus pour mes erreurs. Je n'avais pas compris que Dieu, ce n'est pas le Dieu qui me tombe dessus pour mes erreurs, c'est le Dieu qui a vu mes erreurs et qui est venu payer le prix pour mes erreurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce n'est pas la même vision. On ne devrait pas avoir peur de ce regard-là. Et vous savez pourquoi je dis ça ? C'est parce que bien souvent, je vois des gens qui sont dans des luttes, dans des addictions. Moi, j'ai accompagné beaucoup de jeunes dans des addictions à la pornographie, mais à d'autres addictions également. Et c'est toujours le même mécanisme. Et tant que tout va bien, tant qu'ils sont dans le progrès, ah, je ressens Dieu, il est là. Et après la chute, c'est genre, je me sens tellement seul. J'ai l'impression que Dieu s'est éloigné. En fait, la vérité, Dieu ne s'est pas éloigné. Dieu n'a pas peur du péché, il est venu dans notre péché pour nous en sortir. En fait, c'est nous qui nous éloignons. Parce que nous, en fait, on ne se sent pas digne d'être dans la présence de Dieu. C'est bien souvent nous qui avons honte d'être dans la prière. Je me sens pas digne de prier. Je ne me sens pas digne d'être dans sa présence avec ce que j'ai fait. Et puis le diable est tellement bon pour ça, les amis. Pour nous dire, est-ce que toi, tu vas prier ? Tu vas prier après ce que tu viens de faire ? Toi, tu vas aller dans la présence de Dieu après ce que tu viens de faire ? Toi, tu vas aller à l'église alors que tu viens de t'embrouiller avec ta femme juste avant ? J'essaie de regarder personne là, ce matin parce que... Je me rappelle dans une église un matin, ils me disent « Ah, t'as parlé de moi ?» Non, attends, j'ai parlé de personne, là, je ne veux pas savoir. Mais ça arrive, je le sais, ça m'est déjà arrivé de me disputer un peu ou de m'embrouiller avec ma femme avant de venir à l'église. Et la culpabilité qui vient, est-ce que toi, t'es digne de... Puis tu sais, on n'ose même plus ouvrir la bouche pour dire « Moi, je vais louer Dieu alors que... » Et en fait, le diable arrive à nous faire croire qu'on n'est pas digne d'être dans la présence de Dieu. Et pourtant, vous avez compris ce que le texte nous dit dans la Genèse. Dieu nous cherche. Dieu n'a pas dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Il a dit, où es-tu ? Et Dieu veut le dire à quelqu'un ce matin, où es-tu ? Moi, je suis toujours là. Moi, je te cherche encore. Tu n'es pas digne, oui, mais tu ne l'as jamais été. En fait, tu es rendu digne par mon fils, par son action à la croix, sa mort à la croix et sa résurrection. Mais moi, je suis toujours là. Mes bras sont toujours ouverts. Et on devrait toujours se précipiter en Dieu. Pourquoi ? On va voir Dieu quand tout va bien, alors qu'en fait, c'est quand tout va mal qu'on a encore le plus besoin de lui. Est-ce que quelqu'un ici va voir le médecin quand tout va bien ? C'est bizarre. C'est comme si... imagine quelqu'un qui va chez le médecin comme ça et qui attend, parce que souvent chez le médecin on attend, alors je ne sais pas comment c'est chez vous en France, mais nous on attend bien plus qu'espéré. Et on attend comme ça, on voit les autres passer. Et puis d'un coup on arrive chez le médecin et puis tu sais, tu t'assois et puis le médecin il te dit « Ouais, vous avez quoi ?»« Bah, j'ai rien. » Mais pourquoi vous... « Bah, je voulais vous parler de la gastro que j'ai eue il y a 3 semaines. » Mais c'est il y a 3 semaines qu'il fallait venir me voir. Ah, je ne voulais pas vous déranger, je me sentais trop sale, je me sentais trop... Je voulais pas vous... Mais je suis là pour ça, en fait, à la base. Vous comprenez le parallèle ? Pourquoi on va voir Dieu en se disant « mais je veux te parler de... » Non, c'est quand ça va mal qu'on doit se précipiter dans les bras de Dieu. Il est là pour ça. Il a payé le prix pour ça. C'est un faux raisonnement et je veux vraiment dénoncer la technique du diable parce qu'elle est très clairement émise ici. Il veut nous éloigner de Dieu. Et il veut même nous éloigner les uns des autres. Parce que la présence de Dieu, elle est aussi quand on se tient les uns avec les autres. Il veut t'éloigner de l'Église, il veut nous isoler, il veut qu'on aille se cacher. Alors que Dieu dit, viens vers moi. Et parfois, vous savez, c'est pas juste le diable qui nous accuse, c'est même nous-mêmes qui nous accusons. Et des fois, vous savez, on a tellement fait de promesses à Dieu de « je vais arrêter ça ». On a fait des prières dans ce lieu, je suppose qu'il y a de nombreuses prières qui ont pris place depuis des années maintenant. Et on dit « je t'abandonne ça ». Et malheureusement, on y est retourné parfois. Est-ce que je suis digne de demander encore à Dieu quelque chose alors que je lui avais promis que je lui abandonnais ? On n'y croit plus. C'est même nous-mêmes qui ne croyons plus en nous. Mais je notais cette phrase pour encourager quelqu'un. Même quand il n'y a plus personne pour croire en toi, même pas toi-même, il restera toujours un Dieu pour déclarer tout est possible. Même quand toi, tu ne crois plus en toi, Dieu y croit pour toi. Dieu dit, moi je crois que la liberté elle est encore possible pour toi. Moi je crois que ton problème familial est encore possible pour toi. Il y a encore... l'impossibilité que tu vois devant toi, la tension qui prend place, ton fils qui est en train de s'égarer. Moi, j'y crois encore pour toi. Et je crois pour une passion renouvelée justement ce matin. Pour que des rêves qui sont morts puissent retrouver la vie ce matin. Et vous savez, je terminerai avec cette pensée. Face à la culpabilité, en fait, parce que quand on parle de ça, on parle de culpabilité. Le fait de chuter, le fait de faire des erreurs, et on en fera, et malheureusement encore. En fait, vous savez, face à la culpabilité, face à nos erreurs, finalement, il n'y a que deux chemins. Soit se cacher de Dieu, soit venir se cacher en Dieu. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais c'est vraiment comme ça qu'on doit analyser les choses. Et je prie pour que des hommes et des femmes, ce matin, viennent se cacher en Dieu. Des hommes et des femmes qui étaient cachés, qui se cachaient de Dieu, qui ne cachaient peut-être pas tout, mais qui cachaient un domaine de leur vie, qui ce matin viennent se cacher en Dieu. Troisièmement et dernièrement, nous n'avons rien à craindre car notre vie est cachée en lui. Colossiens chapitre 3 verset 2, affectionnez-vous en choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Waouh! Elle est belle, ce verset. Je n'ai pas eu assez de amen, je vais le répéter, je pense. Ça méritait mieux. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. C'est tellement beau. En fait, c'est beau le fait que notre vie est cachée en lui. Cela signifie que tous ceux qui, ici dans cette salle, ont donné leur vie à Dieu, en fait, leur âme est en sécurité. Elle est cachée en Christ. C'est ça le principe. C'est tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu remets entre les mains de Dieu. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le diable n'y a plus accès. Tout ce que tu as mis entre les mains de Dieu, le diable ne peut pas le ravir. Et si tu as donné ta vie à Dieu, alors, oui, tu mourras peut-être physiquement, mais ton âme vivra pour l'éternité. Ton âme est en sécurité. Tu ne seras plus condamné malgré tes péchés. En fait, ton âme vivra pour l'éternité. C'est magnifique. Mais le principe est le suivant, et il marche malheureusement pour d'autres domaines où on se confie moins en Christ, c'est que si on suit ce raisonnement et cette pensée-là, malheureusement, des fois, on donne notre vie à Dieu, notre âme, et elle est en sécurité. Mais des fois, il y a des domaines de nos vies qu'on garde entre les mains. Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que sur ce domaine-là, ta vie n'est pas en sécurité et le diable y a accès. Et il y a des choses, tant que tu ne les donnes pas à Dieu, en fait, tu vas avoir parfois des résultats humains qui peuvent être plaisants, mais bien souvent des échecs parce que le diable y a accès. Je ne dis pas que tout ce qui est entre les mains de Dieu, ça va toujours être facile. Par exemple, si tu donnes ton avenir professionnel entre les mains de Dieu, ton job, ta société, je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y avoir des péripéties, mais tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, par contre. Parce que c'est entre les mains de Dieu, même le mal, il le transforme en bien. Par contre, si tu le gardes entre les mains, tu vas avoir des fruits humains seulement. Moi, je souhaite qu'on ait les fruits divins dans nos vies. Mais ça demande une chose, que dans tous les domaines de ta vie, en fait, tu donnes les choses à Dieu, la vie sentimentale. Tu as donné peut-être que toi, ici, tu as donné ta vie à Christ, mais ta vie sentimentale, tu as repris un peu le contrôle parce que ça tarde, parce que Dieu, alors que je lui ai demandé X fois qu'il m'envoie celui que mon cœur aime, c'est genre, il faut bien que je reprenne le contrôle. Et puis peut-être qu'il faut que je sois proactif et puis tu commences à, ah oui, bon, il n'est pas chrétien, mais bon, ah, Dieu sait quand même et peut-être que je vais le convertir. Et puis tu commences un peu à baisser un peu tes standards, tu commences à faire un peu par toi-même. J'ai une mauvaise nouvelle. Sur ce domaine-là, le diable y a accès. Parce que ce domaine-là n'est pas entre les mains de Dieu. Peut-être que tes finances ne sont pas entre les mains de Dieu. Peut-être que ta famille n'est pas entre les mains de Dieu. Parce que tu fais par toi-même. Toi, tu veux convertir tes enfants. Ça, c'est, des fois, c'est faire par soi-même. Vous savez, on veut garder le contrôle. Je peux vraiment aller très loin dans tous les domaines. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si on s'abandonne totalement à lui, et pas juste notre âme, mais aussi tous les domaines de nos vies, alors tous ces domaines sont en sécurité. Et le diable ne peut pas y avoir accès. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. On va aller dans un temps d'appel. Je voulais être assez rapide. Finalement, je ne l'ai pas été tant que ça. Et je voudrais terminer avec une petite histoire. En tout cas, la pensée, vous l'aurez compris, c'est que l'ennemi vient et te dit « cache-toi de Dieu » et Dieu te dit « cache-toi en moi ». Et je prie que là, pendant le temps de prière et de louange que l'on va vivre, de nombreuses personnes, vous veniez vous cacher en Dieu. Vos inquiétudes, vous veniez les cacher en Dieu. Vos impossibilités, vous venez les cacher en Dieu. Tout ce que vous gardez entre vos mains, là, tu le sais, il y a des choses que tu as repris le contrôle, tu les réabandonnes entre les mains de Dieu parce que ta vie est cachée seulement en lui. Je prie pour des retours à la maison. Je prie pour des retours au cœur du Père. Vous savez, bien souvent, on a peur de ce regard de Dieu Et moi, il y a un épisode de ma vie où Dieu m'a montré la réalité de son regard. On parle de regard divin. Et bien souvent, on peut avoir peur de ce regard du Père. Moi, il y a un épisode de ma vie où Dieu m'a montré quelle était vraiment la nature de son regard. Il y a quelques années de cela, quand je vous expliquais, je sortais beaucoup. Et dans mon petit village, il n'y avait pas forcément parfois grand-chose à faire. Et on faisait des soirées comme ça, où on terminait à pas d'heure, en s'alcoolisant beaucoup. Et là, c'est dans une soirée, je suis en fin d'adolescence, début, et on a une soirée où on a commencé un peu à s'amuser. Mais moi, mon père, il m'a mis un couvre-feu vraiment trop tôt. C'était genre 21h. Ils sont durs, des fois, les darons, quand même. 21h. Et tous mes copains, c'était 23h, minuit. Et moi, 21h, quoi. J'avais beau essayer d'argumenter. Non, c'est 21h, c'est comme ça, tu connais les règles, machin, machin. Et je rentre sur le chemin du retour, comme ça. Et je suis tellement triste ou enragé de savoir toute la fête que je vais rater, que je décide en chemin que quand je vais arriver à la maison, je vais sortir par la fenêtre. Et donc j'arrive à la maison, et là mon père est en train de regarder les matchs de foot, un match de foot, et on regardait toujours les matchs de foot ensemble. Et il me propose de regarder la fin du match avec lui. Et là je dis, ah non, je suis fatigué. Première alerte déjà. Pas fou hein, les parents quand même. Hein. Non, je suis fatigué ce soir, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas bien, je vais aller me coucher. Ouais. Je vais dans ma chambre, la logique voudrait que j'attende un peu que ça se tasse dans la maison, tu vois, que tout le monde soit un peu couché, ou pour vraiment que je ne me fasse pas griller. Mais je suis tellement excité, je vais rater la fête. Alors je patiente, j'ai dû patienter 2 minutes 30 quoi, à peu près. Et là, j'essaie les techniques que j'ai vues à la télé, j'essaie de mettre un coussin en forme de moi dans le lit, tu vois, comme ça. Technique, soit dit en passant, qui ne fonctionne absolument pas. Alors, ce n'est pas des conseils que je vous donne, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, à qui ça s'adresse. C'est pas, de toute façon, n'essayez pas, mais ne faites rien du tout de cette histoire, d'ailleurs. Et là, je sors par la fenêtre, instantanément. Et là, mon père, évidemment, une minute plus tard, il arrive, il tape à la porte, « Benjamin, comment ça va ?»« Benjamin, Benjamin, Benjamin !» Évidemment, je ne suis pas dans le lit. Et là, il regarde par la fenêtre, il me voit partir. Et il décide de me suivre à vélo. Et là, moi, je ne sais pas, j'arrive sur le lieu des festivités. Les amis, mes potes de l'époque ne savaient pas que je revenais. Ah, les amis, quand ils me voient arriver, « Ben, ah, mais t'es un fou, Ben ! Oh, il y a Ben ! Mais non, Ben, t'es un malade ! Ben, 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 Ben. » Je monte sur la table, et ils me passent tous les bouteilles. « Vas-y, rattrape ton retard, Ben ! Ouais ! Ben, pour Ben, un verre pour Ben ! Ouais ! Ah, je suis fier de moi, hein. Je suis un demi-dieu pour eux. Ouais, vas-y, Ben ! Et là, j'ai un verre pour Ben, ouais, Ben, il y a ton père, ouais. Et je dis comme ça, je crois que c'est blague. Ouais, un verre pour mon père, ouais. Et moi, je sais pas. Et un pote à moi, il me dit, Ben, il y a vraiment ton père. Alors là, c'est l'apocalypse, les amis. Là, il y a des gens, ils courent dans tous les sens. Pourtant, c'est pas leur père, mais ils savent qu'ils peuvent prendre aussi. Ils se mettent à courir. Il y a des gens, ils se cachaient dans des trucs improbables, je te promets, dans des cachettes. Et moi, je cours, comme ça, je cours. Au bout d'un moment, je dis, mais tu vas où ? Et même moi, je me dis, tu fais quoi, en fait ? Tu vas où ? C'est quoi le projet de la soirée ? Genre, tu vas courir jusqu'où, en fait ? Et là, bah, je m'arrête. Et puis, bah, je rentre vers mon père. Ah, le chemin, il est long, hein, je vous le dis. C'est le couloir de la mort. Il est long aussi parce que je ne prends pas le chemin le plus court non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, je ne prends pas direct. Et là, j'arrive vers mon père. Et je croise son regard. Et là, les amis, honnêtement, je me dis, si je mérite bien une sentence, c'est maintenant. Mon père n'est pas violent. Il ne m'a jamais levé la main sur moi. Mais je m'attends à ce qu'il me réprimande fort. Et je le méritais. Je m'attends vraiment à ça. Et sauf que je me rappellerai toujours, ça m'a marqué, le regard qu'il a posé sur moi. Vous savez, un regard de tristesse, certes, mais il a prononcé ces mots, il a dit, allez, viens, je te ramène à la maison. Viens, je te ramène à la maison. Un regard plein de compassion en même temps. Parce qu'en fait, mon père, à ce moment-là, vous comprenez, il n'a pas besoin de me rappeler mon péché, il est un peu évident. Et là, je marche à côté de mon père, et la scène, j'ai honte. Je suis là à côté de mon père, il est à vélo, il ne dit pas un mot. Et moi, je titube à moitié à côté de lui et le chemin est grand pour rentrer à la maison. Et il ne m'a jamais rappelé mon péché. Il m'a juste ramené à la maison. Il m'a dit, viens, Ben, on rentre à la maison. En fait, ses mots et son amour a totalement suffi à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de me rappeler tous mes péchés. Vous savez, des fois, nous, on croit qu'on va revenir dans le lieu de la prière, que Dieu va nous rappeler tout ce qu'on n'a pas fait. Vous savez, le lieu du figuier, c'est le lieu, les commentateurs au moins, ils s'accordent à dire que c'était le lieu de la méditation. Nous, on croit que Dieu va dire, eh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu sous le figuier, tiens. Ça fait longtemps que tu n'es pas venu dans le lieu de la prière. Heureusement, Dieu ne parle pas comme ça. Mais la réalité, c'est que Dieu ne tombe pas dessus. S'il commençait à faire apparaître tous nos péchés à côté de nous, je pense que la liste pourrait être très longue. Mais il vient, et il revient avec un regard de compassion en disant, viens, viens avec moi. Même si tu as péché, viens à moi, rentre à la maison. Il y a des retours à Dieu qui vous sont proposés ce matin, ou des gens qui sont éloignés. Vous savez, c'est même le regard de... Vous savez, Pierre a... J'ai eu cette pensée, Pierre a renié Jésus, alors qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais. Quand Pierre l'a fait, alors qu'il était en train de partir, la Bible nous dit que Jésus a regardé Pierre. Et nous, on se dit tous, ah ben oui, Jésus, il devait être en mode, je te l'avais dit, que tu allais me renier. Je crois que ce n'est absolument pas le regard de Jésus. Je pense que c'est un regard qui cherche toujours le contact, qui dit, Pierre, ça va, je suis toujours là. Comme Dieu qui dit, où es-tu ? En fait, Dieu a le regard porté sur le pécheur, pas sur le péché. C'est-à-dire que quand Adam et Ève vont pécher, Dieu va leur dire, où êtes-vous ? Il ne va pas dire, qu'est-ce que vous faites ? En fait, Dieu a toujours les regards. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça que dans cette histoire, il dit, je t'ai vu sous le figuier. Il ne dit pas, j'ai vu ce que tu as fait sous le figuier. Il n'a pas les yeux braqués sur ce qu'on a fait. Il a les yeux braqués sur nous, parce qu'il nous aime. Alors je crois, les amis, qu'on devrait toujours, notre réflexe premier devrait toujours devenir se précipiter entre les bras du Père. Je prie pour des retours à Dieu ce matin, et je prie pour une relation retrouvée et renouvelée. On peut prier ensemble, on peut se lever chacun à notre place, s'il vous plaît. Ce que je vous propose, les amis, c'est quelques instants. Avant qu'on commence à prier, moi j'aime faire ça à chaque fin de message, j'aimerais qu'on puisse méditer sur nos paroles, sur les paroles qui ont été données. On ferme les yeux, ça aide à se concentrer. On ferme les yeux et on repasse un petit peu le message, tout ce qui a été dit, peut-être même des choses avant même le message, pendant la louange, des choses que tu as pu recevoir personnellement. Mais Dieu veut te parler ce matin à toi individuellement. Il y a eu le message qui est collectif, mais maintenant il y a un Dieu qui veut te parler à toi individuellement. Et je suis sûr que dans cette matinée, il y a des mots qui ont résonné plus fort que d'autres. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en action. Ça, c'est Dieu qui veut te parler à toi. J'ai dit bien des choses, j'en suis conscient. Mais il y a des phrases où ça a vibré sur ton cœur. Il y a quelque chose qui a... Et là, tu t'es dit, c'est vrai ce qu'il dit là. Ça, c'est pas moi. J'ai pas cette capacité-là, moi. Ça, c'est juste Dieu qui est en train de te dire, ça, c'est pour toi. Ça, c'est une parole pour toi. Ça, c'est ce que je veux de toi. Je veux ton cœur, oui. Mais je veux tout le reste. Je te veux tout entier. Qu'est-ce qui est entre tes mains et qui n'est pas entre les mains de Dieu ? Prends un temps, quelques instants de silence, et j'aimerais que tu puisses t'examiner toi-même. Et j'aimerais vraiment que tu puisses laisser le Saint-Esprit te montrer cette réalité. Alors que la musique continue à jouer doucement. Repasse les images, repasse le message, et écoute ce que Dieu te montre dans ces instants. Tu souffres, Seigneur, dans ce lieu maintenant. Tu montres à chacun la part de ce qui lui appartient. Montre-moi, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Sonde mon cœur. Examine-moi, je veux revenir pleinement à toi. Peut-être des choses que je ne suis même pas conscient d'avoir repris. Peut-être des rêves que je cherche à faire avancer par moi-même. Peut-être des pensées, peut-être des mots. Un vocabulaire que j'ai repris, peut-être à propos de la manière de gérer mon temps. Il n'y a pas assez de place pour toi, trop de place pour moi. La manière de gérer mes relations, peut-être un conflit familial. Puis parfois parce que le temps tarde, on a cessé d'y croire et on a repris le contrôle. Mais Dieu te rappelle que si c'est entre ses mains, ses promesses sont oui et amen. Quand il commence quelque chose, il le termine. C'est sûr qu'on n'a pas la notion du temps, on ne comprend pas, parce que nous, on a une temporalité qui est différente de celle de Dieu. Mais Dieu te rappelle ce matin que si c'est entre ses mains, cette chose s'accomplira de manière sûre et certaine. Alors réabandonne-lui. Continue de faire des efforts. Peut-être que tu as chuté encore cette semaine. Dieu ne te condamne pas. Dieu est toujours là. Dieu te demande juste de te relever et de continuer de marcher. La force d'un chrétien, c'est la résilience. C'est de continuer de marcher, de courir vers la liberté. Il y a une liberté plus grande qui t'est promise. Ne te satisfais pas de ce que tu as aujourd'hui. Des victoires d'hier, j'ai tellement plus pour toi. Continue de te battre. Relève-toi. Relance ta prière. Tes prières sont entendues. Remets ta vie en mouvement, ta vie spirituelle. Tes temps avec moi. Je ne suis pas le Dieu qui te condamne. Je suis Dieu qui te donne envie de plus, qui ranime la passion dans ton cœur ce matin. Dieu veut que tu y crois encore parce que lui, il y croit pour toi. Seigneur mon Dieu, je te prie pour les hommes et les femmes dans ce lieu qui sont à l'arrêt, que tu remets en mouvement spirituellement. Et si tu les remets en mouvement, ce n'est pas pour n'importe quelle direction. C'est une direction qui vient dans tes bras. La destination, c'est toujours toi. Le but, c'est toujours toi. Oui, à travers nos rêves, nos aspirations. Mais derrière toutes ces choses, c'est toi, Père. Et nous courons vers toi. Je prie pour des hommes et des femmes qui n'y croient plus dans certains domaines. Je prie pour que tu les aides à y croire encore. Leur rêve reprend vie ce matin. Je parle de manière assez généraliste, mais je crois que chacun peut recevoir quelque chose pour sa vie, spécifiquement du Saint-Esprit ce matin. Et je ne veux pas parler à la place de Dieu, parce que je crois que Dieu est capable de te parler dans ton cœur et te dire ce que ça veut dire pour toi. Avant qu'on prenne un chant, les amis, j'aimerais proposer à quelqu'un de déposer sa vie entre les mains de Dieu. Peut-être certains, vous allez déposer des domaines, mais il y a quelqu'un ici dans ce lieu, c'est ton âme qui n'est pas en sécurité. Toi, c'est ta vie qui n'a pas commencé avec Dieu encore. Quand je disais que ma vie, moi, elle a commencé à 27 ans, c'est ça qui t'a touché, toi. C'est déjà, est-ce que ça serait vrai que ma vie, elle tourne en rond? Est-ce que ça serait vrai que ma vie, la vraie vie, celle, la vie Zoé, la vie dans la vie, celle que Dieu m'a promis qu'elle pourrait commencer aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Mais ça demande un abandon. Attends pas de vivre tous les échecs du monde avant de plier le genou. Une main levée ce matin et une repentance sincère va faire que tu vas vivre. Aujourd'hui sera le jour 1 du reste de ton existence. Alors que les yeux sont fermés, est-ce qu'on peut fermer les yeux tous ensemble pour que personne ne se sente observé? J'aimerais proposer à quelqu'un la prière et la repentance et à quelqu'un d'abandonner sa vie entre les mains de Dieu. Si tu te sens concerné, lève ta main à ta place, même rapidement, et je vais avoir l'occasion de prier pour toi. Oui, oui, tu peux baisser instantanément, oui. Oui. Ne résiste pas. Je voudrais proposer, avant de prier pour vous et tous ces besoins, je voudrais proposer à des personnes qui ont déjà leur âme en sécurité entre les mains de Dieu, mais qui savent, il y a quelque chose qu'il faut que je laisse entre les mains de Dieu. Il y a un rêve que je veux qu'il soit réanimé. Je comprends que j'ai repris le contrôle. C'est peut-être tes finances. C'est peut-être ton job. C'est peut-être même ton rêve d'aspiration pour Dieu, ton ministère. Je ne sais pas quel domaine ça te parle. Je ne sais pas ce qu'a fait écho. Mais ta main levée ce matin va signifier un abandon entre les mains de Dieu. Je ne sais pas, et personne ne saura dans ce lieu pourquoi tu lèves la main. Mais toi, tu sais ce que tu es en train de libérer entre les mains de Dieu. Alors à n'importe quel moment maintenant, tu peux lever ta main et revenir à Dieu, remettre en sécurité un domaine de ta vie qui n'est pas en sécurité parce que le diable y a accès. C'est un acte qui est plus qu'une main levée. C'est spirituellement quelque chose que tu viens mettre en sécurité entre ses mains. Et l'ennemi ne pourra pas ravir ce qui est entre les mains de Dieu. Et tu le sais, tu lèves tes mains en cet instant parce que tu dis maintenant je te le confie. Je te confie mon fils, je confie mes finances, je confie mon avenir, je te confie ma maladie. Je te confie toutes ces choses que je ne peux pas maîtriser. Je te le confie, Père. Je reviens à toi, Père. Je suis désolé de m'être éloigné. Il y a un retour à Dieu. Peut-être quelqu'un qui lève la main en disant « Seigneur, mon Dieu, je veux revenir dans le lieu de la prière. Je me sens tellement coupable bien souvent. Je me sens tellement sale. Je t'ai fait des promesses X fois, mais ce matin, je lève la main pour dire « Je reviens, Père. Je reviens auprès de toi parce que je suis conscient que tu ne m'attends pas avec le bâton ou celui qui va me rappeler toutes mes erreurs. Tu es celui qui m'accueille en disant « Viens, fils. J'ai toujours été là. Et moi, je vais t'emmener plus loin. » Et on va aller plus loin ensemble. Et je te ramène à la maison, là où tu es en sécurité. Tu es en danger, là où tu es. Reviens auprès du Père. Est-ce que quelqu'un dit oui? Lève la main, c'est ensemble. Oui.
Prions ensemble, Église, pour tous les besoins, toutes les mains levées. Celles qui ont été levées pour différentes raisons, mais prions, intercédons ensemble. N'attendez pas ma prière, commencez à élever la voix. Aucune église se lève spirituellement ce matin pour intercéder pour ses frères et ses sœurs autour d'elle. Levez la voix avec moi. Je te prie pour tous les besoins, je te prie pour toutes les mains levées. Seigneur mon Dieu, je ne peux pas savoir ce qu'il y a derrière une main, mais toi tu sais, parce que toi tu as vu. Et toi tu as vu, Seigneur mon Dieu, ce geste qui est un geste d'abandon et un appel à l'aide, Seigneur mon Dieu. Et quand un malheureux crie, la Bible nous dit que l'Éternel l'entend. Et je crois que ce matin ta prière a entendu et ta main levée a été vue. Et ton abandon signifie bien plus qu'une main en l'air, c'est un retour à Dieu. C'est un abandon entre les mains de Dieu. Mon ami, quelque chose qui se remet en mouvement spirituellement ce matin parce que tu t'es abandonné à nouveau. Je veux le dire à ton âme qui n'y croit plus, c'est en sécurité, ce domaine maintenant c'est en sécurité. Tu es revenu auprès du Père, alors tu es en sécurité. L'avenir c'est entre ses mains, c'est son affaire à lui. Fais ta part, mais cherche pas à tout faire. Dieu fera sa part à lui. Et confiance, sors de ce lieu avec la paix. Dieu fera sa part. Je vais te prier pour tous ceux, Seigneur mon Dieu, ont abandonné leur vie. Seigneur mon Dieu, merci de leur faire comprendre que c'est le moment le plus important du reste de leur existence. Seigneur mon Dieu, merci de leur faire comprendre que tous ceux qui t'ont demandé pardon, qui sont venus dans une repentance, qui ont levé la main en disant Seigneur mon Dieu, prends ma vie. Ils sont rentrés en nouveauté de vie. Aujourd'hui, le péché n'est plus sur leur épaule. Aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu. Aujourd'hui, ton sacrifice leur est compté, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui, leur nom est inscrit dans le livre de vie. Et si même ils meurent physiquement, ils vivront pour l'éternité. Ce sont des frères et des sœurs. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Merci Seigneur Jésus, il y a de la joie dans ce lieu. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur Père. Les amis, je ne sais pas quelle est votre déclaration, mais moi j'ai envie de dire à Dieu que je m'abandonne à lui, que je reviens à lui. Et on prendra un dernier temps tout à l'heure dans la prière, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le déclarer dans un chant et dans une louange, qu'on revient à lui. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça avec l'équipe de louange? Est-ce que vous êtes prêts à ouvrir vos bouches et à chanter? Mais pas juste avec votre bouche, avec votre cœur, à revenir auprès de lui. On va se faire du bien, les amis, en disant à Dieu qu'on s'abandonne à lui, qu'on revient à lui. Vous êtes prêts à faire cette équipe de louanges? Est-ce qu'on peut les acclamer, les encourager bien fort? On revient auprès du cœur du Père.